Alors bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Quelle grâce de pouvoir être ensemble pour louer et adorer notre Dieu. C'est vraiment une grâce. Je pense qu'on pourrait prendre peut-être une seconde pour réaliser cela. Vous savez que si on a le souffle de vie, si ce matin nous sommes debout, c'est juste un effet de sa grâce. Rien d'autre. Car notre Dieu, bon, vous le savez, il tient le monde dans ses mains. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alors rendons-lui grâce ce matin, tout simplement pour qui il est. Rien d'autre. Alors pour la pensée de ce matin, nous allons prendre un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Alors on connaît tous ce livre, on sait ce qu'il dit, en général, il raconte, vous savez, la naissance et le développement de l'Église primitive, de la première Église. Son auteur, c'est Luc, c'est le même que l'Évangile du même nom. C'est Luc qui a écrit l'Évangile de Luc et c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Alors je ne sais pas si vous savez, mais tout le Nouveau Testament, à la base, il a été écrit en grec. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot « acte » en grec ? Alors normalement, Amaury, il sait, parce qu'Amaury, l'année dernière, il a pris cours de grec. Alors grec, donc pendant acte en grec est traduit par le mot praxeis. En fait, il veut vraiment pas dire quelque chose. C'est pas un mot qui signifie quelque chose. En fait, c'est un genre littéraire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un genre littéraire? Il y a plusieurs. Il y a le genre narratif, le genre théâtral, le genre poétique, le genre argumentatif. Donc acte, en fait, c'est un genre littéraire qui caractérise les livres qui décrivent les grandes œuvres de certains personnages. Alors en lisant le livre, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre tout ce que les apôtres ont fait pour la fondation de l'Église. Vraiment de grandes choses. Donc le titre, il est plutôt approprié. Mais en lisant le texte attentivement, je pense qu'il y a un titre qui serait, il me semble, à mon sens, plus juste de donner que celui de Actes des Apôtres. Parce que qui c'est en fait qui a fait des grandes choses? Allez, je vous le donne. Les actes du Saint-Esprit à l'œuvre dans chaque croyant. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est le Saint-Esprit qui agit et les apôtres ont été juste des instruments utiles pour la gloire de Dieu. Sans le Saint-Esprit, les apôtres n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, nous ne nous vantons pas, nous ne sommes pas capables de grand-chose pour l'œuvre de Dieu. Alors attention, l'homme à proprement parler, je pense qu'il peut faire de grandes choses à ses yeux. Mais quelles sont-elles aux yeux de Dieu? Quelles sont les valeurs? Quelles valeurs elles ont, les choses que nous faisons sans Dieu? Alors j'ai pour vous deux petits exemples. Long de 269 mètres, large de 28 mètres, un poids de 46 328 tonnes. Engin mobile gigantesque construit de main d'homme. Sa hauteur atteint 52 mètres, dont 10,5 seulement sous l'eau. Il compte 3 moteurs, 29 chaudières, 7 ponts, 4 pour la première classe et environ 3000 hommes pour le construire. Alors maintenant, voyons une construction un petit peu moins impressionnante. Genèse 6, le verset 15. Genèse 6, verset 15. « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » Alors une coudée, c'est environ 50 cm. Alors la conversion, elle est facile. 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. C'est moins impressionnant que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais il y a une très grosse différence entre les deux. Entre ces deux constructions, il y a une très grosse différence. Alors, le premier, vous l'avez sûrement compris, les journaux à l'époque l'appelaient, alors je cite, « L'orgueilleux navire est réputé insubmersible. » 3000 professionnels de la construction navale, plus beau et plus grand que le premier aux yeux des hommes. Je pense que le Titanic, il devait être plus beau que l'Arche de Noé, peut-être. Quand le 10 avril 1912, dans le port anglais, alors excusez mon accent, de Southampton, Je ne sais pas si c'est bon, mais bon, vous avez compris. Sylvia Caldwell embarque à bord du Titanic et un membre de l'équipage, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va affirmer « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire ». Alors, on connaît tous malheureusement la suite de l'histoire. Une traversée, une erreur humaine, pour finir par un drame. Le second qu'on a vu dans la Genèse, je pense que Noé était un novice de la construction navale. Mais lui, par contre, il avait un avantage considérable. Il avait Dieu avec lui. Ensuite, il va y avoir un déluge qui en attirant tout ce qui a souffle de vie sur terre. Dieu va établir une alliance avec lui pour redonner une chance à la création. Alors, on connaît évidemment la suite de l'histoire, mais elle finit bien mieux que la première, parce que nous sommes là aujourd'hui. Croyez-moi, sans Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour cela que Jésus dira à ses disciples d'attendre tranquillement à Jérusalem la promesse du Père et de ce qu'il leur a donné. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Alors nous pouvons faire plein de choses, mais selon notre volonté, tout simplement. Et cela est-il utile à Dieu ou utile à nous, si on fait les choses sans le Saint-Esprit? Si on fait les choses sans écouter Dieu, à qui on va être utile? Et de là, me vient une question. On l'a chanté. Nous avons besoin de toi. Mais est-ce que Dieu a besoin de moi? Ou alors, suis-je utile à Dieu? Et je pense qu'on pourrait prendre ce titre-là pour le message de ce matin. Dieu a-t-il besoin de moi? C'est la question que je nous pose ce matin. Dieu a-t-il besoin de moi? Dieu a-t-il besoin de toi? Dieu a-t-il besoin de nous? Alors pour commencer le message, nous allons donc lire un passage, comme je vous l'avais dit, promis, dans les livres des Actes. Acte 17, versets 22 à 25. Marie, tu dégaines plus vite que ton ombre. Je n'ai pas eu le temps de lever, c'était déjà affiché. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il en avait besoin, besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Alors nous avons dans ce passage une réponse à cette question, je pense. Dieu a-t-il besoin de moi? Alors faites-vous votre réponse et on peut en rester là. Non, on va aller un petit peu plus loin quand même. Parce que je ne vais pas répondre de manière catégorique à cette question. Je pense que chacun, pour notre part, nous devons y répondre, mais on ne va pas s'empresser de répondre. Je pense qu'elle demande quand même un minimum de réflexion. Parce que peut-être avec l'enthousiasme, on va dire, avec ce qu'on a chanté, non, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais si on réfléchit un peu, ouais, mais si, quand même, pourquoi il nous a créés alors? S'il nous a créés, il y a une bonne raison. Peut-être qu'il a besoin de nous, peut-être juste parce qu'il avait besoin de nous aimer. Alors avant de savoir si Dieu a besoin de moi, je pense que la première des questions que je dois me poser, c'est est-ce que Dieu a besoin de quelque chose, déjà? Alors pour répondre à cette question, lisons deux versets dans l'Ancien Testament. Exode 3 et les versets 13 à 14. Tu vas trop vite, Marie, c'est incroyable. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors, « Je suis celui qui suis », en hébreu, ça donne, excusez une nouvelle fois mon accent, parce que je suis aussi bon en anglais qu'en hébreu. Ayez, Asher, ayez. Alors, ayez en hébreu, ça peut se traduire par soit je suis, soit j'étais, ou alors je serai. Parce qu'en fait, dans l'hébreu, il n'y a pas de langue. Enfin, il n'y a pas de. Si, il y a des langues. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de futur, de passé. En fait, c'est toujours le même temps. Donc, on peut traduire ce verbe ayez par je suis, j'étais ou je serai. En fait, c'est la même chose. Il dit trois fois ça, le Seigneur. Quand il dit je suis celui qui suis, en fait, il dit je suis celui qui est, qui était et qui sera. Et Jésus le dira à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dieu existe de toute éternité. Dieu est le fondement de toute chose. Il y a tout qui repose sur lui. À lui appartient l'or, l'argent. Il est même hors du temps. Le premier verset de la Bible nous dit, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous, nous sommes dépendants de lui. Nous, c'est sûr et certain, nous avons besoin de lui. Alors certains peuvent dire, oh ben, moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. Hein. Moi, ma vie, comme elle va, elle est bien. Hein. Moi, je vais bien dans ma vie. J'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai une maison. Je suis heureux, j'ai des amis. Pas besoin de rajouter Dieu dans ma vie. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous avons eu besoin de lui pour exister. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est lui qui donne le souffle de vie. Alors Dieu n'a pas besoin de nous, ni pour la louange, ni pour la prédication, ni pour quoi que ce soit. Alors ne nous flattons pas. L'adoration, la prière, le service, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est juste une grâce. C'est juste une faveur qu'il nous donne. Nos talents, si grands soient-ils, pardon, nos qualités, nos capacités, ben, tout ça vient de Dieu. 1 Corinthiens 4, le verset 7 nous dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Dieu n'a pas besoin de nous. Par contre, Dieu désire une chose. Depuis notre séparation dans le jardin d'Éden, depuis que notre relation avec lui a été coupée, Dieu a mis en place un plan de salut pour chacun d'entre nous. 1 Timothée 2, le verset 4, nous dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous savez, un chrétien n'œuvre pas pour être sauvé, mais il œuvre justement parce qu'il est sauvé. Et c'est cela qui doit motiver notre cœur quand nous le louons. Quelle grâce! Quelle grâce le Seigneur nous a fait alors qu'on ne méritait rien. Vous savez, quand je le sers dans l'église, quand je suis au travail, quand je suis en famille, quand je conduis, quand je prie, quand je mange, quand je bois, quoi que je fasse, cela doit être pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et s'il nous envoyait le Saint-Esprit, c'est justement pour qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Mon frère, ma sœur, réalise-t-on vraiment qui est Dieu? Est-ce qu'on réalise le privilège que nous avons d'être fils et filles de Dieu? Est-ce qu'on se pose des fois le matin en se réveillant, je me réveille, je suis fils de Dieu? Mais est-ce qu'on réalise ça? Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons pour une seule chose. Simplement parce qu'il en est digne. Et rien d'autre. C'est juste parce que Dieu est digne. Dieu est digne qu'on l'adore. Dieu est digne qu'on le loue. Dieu est digne qu'on le serve. Apocalypse 4, le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand je réalise que Dieu finalement n'a pas besoin de moi et que malgré ça, il s'intéresse à moi, quand je vois toute la création qui chante à la gloire de Dieu et que Dieu veut me rendre participant à cela, mais quelle grâce! Mon frère, ma sœur, Dieu nous donne le privilège, l'honneur de toucher des choses saintes. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on s'en rend compte que d'être dans ce lieu, puisque Dieu est présent dans ce lieu, c'est un lieu saint. Est-ce que mon attitude adore Dieu? Est-ce que mes pensées adorent Dieu? Est-ce que mon cœur, est-ce que mes sentiments, est-ce que ce que je ressens là ce matin adore Dieu juste pour qui il est? Ou est-ce que je suis rentré dans ce lieu qui est saint avec mes rancœurs, avec mes rancunes, avec mes blessures, avec mes doutes, avec mes angoisses? J'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui ont la certitude d'être sauvés. Qui dans l'auditoire a l'assurance que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Qui dans l'auditoire a accepté Jésus comme sauveur? Allez-y, n'ayez pas honte. Hein. Vous pouvez lever la main. Hein. Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Prenons deux versets ensemble si vous le voulez bien. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Malgré que Dieu se suffise à lui-même, son amour pour nous est tellement grand qu'il a quitté son ciel de gloire. Tellement Dieu nous aime, il a mis de côté sa divinité pour prendre sur lui le poids de nos fautes. Il n'avait besoin de rien, il pouvait rester, il se suffit à lui-même, Dieu. Mais malgré que nous soyons sauvés, alors je parle pour moi, chacun peut parler pour lui-même, il arrive souvent encore que nous vivons selon nos propres voies. On avance peut-être avec nos propres choix, qui seront guidés par nos convoitises ou par nos désirs, guidés par nos envies. Ce Dieu si grand qui se suffit à lui-même, qui n'a pas hésité une seconde à payer le prix pour nous. Est-ce que dans nos attitudes, chaque jour, on réalise ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on réalise qui il est déjà? Un Dieu qui n'a besoin de rien. Un Dieu qui se suffit à lui-même. Un Dieu qui n'a pas besoin de notre service. Un Dieu qui n'a pas besoin qu'on se réunisse tous les dimanches. Il n'a pas besoin de ça. Tout ça, c'est pour nous. Tout ça, c'est une grâce qu'il nous offre, qu'il nous donne. Est-ce qu'on réalise ce qu'il a fait sur la croix? Ésaïe 53, le verset 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Combien de fois on suit nos propres voies encore aujourd'hui? Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'a pas besoin de nous. Il désire que nous soyons sauvés et accédons à la vérité. Et nous, combien de fois on le rejette? Combien de fois on vit selon nos désirs? Il paye le prix pour qu'on soit réconcilié avec lui. Il nous rend co-héritiers avec Christ de son royaume, c'est-à-dire qu'on hérite de tout. Mon frère, ma sœur, tout ce que nous faisons, faisons-le simplement pour l'adorer. Ne jouons plus avec le péché. N'abusons pas, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons connu justement la repentance, nous qui avons connu la joie de ressentir que nous sommes pardonnés. J'ai envie de nous dire ce matin, je me le dis à moi aussi, hein, mais combien de fois j'ai abusé du verset 1 Jean 1,9 ? Combien de fois ? Qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Combien de fois avons-nous abusé de ce verset ? Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Alors nous qui savons toutes ces choses, parfois, je le prends pour moi, ce que je dis, hein, j'ai l'impression d'agir comme un enfant gâté. Des fois, j'ai l'impression que toutes ces grâces, ben, finalement, Dieu me les doit. Puisque la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, ben, je peux pécher, je demande pardon, le Seigneur me pardonne. Ben, il le dit, c'est juste, hein, parce qu'il est juste, il est fidèle. Lui, il est juste, il est fidèle. Mais combien de fois, nous, on est injuste et on est infidèle. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous dans la louange. Pas du tout. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est lève-toi et adore-le simplement parce qu'il est digne. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Non, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Alors jeûne, prie, intercède. Juste parce qu'il est digne. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous pour convaincre de péché, de justice, de jugement. Alors lève-toi et va dans la rue. Annonce l'évangile et parle à toute la création des merveilles de Dieu, parce qu'il est digne. Dieu n'a pas besoin de nous pour guérir les malades. Non. Alors prie pour les malades. Juste parce que Jésus sur la croix a pris nos maladies. Dieu n'a pas besoin de prédicateurs pour parler à nos cœurs. Il a fait parler une pierre. Alors attache-toi à la parole de Dieu, lis ta Bible, médite-la et parle de la part du Seigneur parce qu'il est digne. Aime ton ennemi juste parce que Dieu l'aime aussi. Pardonne juste parce que Dieu pardonne. Sois patient, juste parce que Dieu est patient. Combien de fois Dieu a été patient avec nous ? Moi, je ne compte pas, je ne compte plus. Hein. Nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, ayons les sentiments qui étaient en Christ. Pas pour être bon chrétien, juste parce qu'il en est digne. Car ce Dieu qui se suffit à lui-même, ce Dieu qui n'a besoin de rien, ce Dieu qui est l'alpha, l'oméga, il s'est dépouillé lui-même, non pour être servi, mais pour servir. Philippiens 2, le verset 6 et 8. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ne faisons rien pour notre propre gloire. Ne nous sentons pas au-dessus des autres, parce que Dieu nous a donné un talent. Combien de fois on peut se glorifier parce que Dieu nous a donné un talent ? Ne cherchons pas nos propres intérêts, sans considérer ceux des autres. Mon frère, ma sœur, ayons les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, mon ami qui vient peut-être pour là ou les premières fois, c'est peut-être une des premières fois que tu entends parler de Jésus, peut-être que tu te sens inutile. Peut-être que tu te sens pas digne de recevoir Dieu. Et encore moins de le servir. Peut-être que tu n'as pas tout compris au message de ce matin. Mais laisse-moi te dire une chose. J'aimerais terminer avec ça. Ce Dieu si merveilleux qui n'a besoin de rien se penche sur chacune de nos vies. Car c'est indéniable. Nous avons besoin de lui chaque jour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu n'aurait pas tes capacités. Parce qu'il n'en a pas besoin de tes capacités. Dieu ne regarde pas à qui tu es. Dieu ne regarde pas tes fautes. Car si Dieu faisait cela, ben je ne serais pas de l'homme. Je ne serais pas là ce matin devant vous. S'il avait regardé à qui j'étais, je ne serais même pas dans ce lieu. Si toi ce matin, si comme moi, pardon, ce matin, je suis là, devant vous, c'est parce que j'ai cru. J'ai cru dans l'amour de mon Sauveur, tout simplement. Alors toi aussi ce matin, crois que Dieu existe. Vous vous rappelez l'histoire du début ? Hébreux 11, le verset 6 et 7. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et s'est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi en Jésus, mon frère, ma sœur, mon ami, ben nous sommes divinement réconciliés avec Dieu. Alors ce matin, cet après-midi, demain, après-demain, ce soir, les jours qui vont suivre, quoi que nous fassions, faisons-le dans un esprit d'adoration. Simplement parce que Dieu est digne. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole, merci pour ton amour. Je veux t'adorer, Seigneur mon Dieu, simplement parce que tu es digne. Je veux, Seigneur, bien agir avec mon frère, ma sœur, mon épouse, mes enfants, simplement parce que tu es digne. Je veux, Seigneur, aimer mon prochain, je veux aimer mon ennemi, Seigneur mon Dieu, simplement parce que tu en es digne. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur, chaque jour. Je veux venir dans l'église le mardi, intercéder et prier, Seigneur, pour les malades, simplement parce que tu en es digne. Je veux venir le dimanche, Seigneur mon Dieu, avec mes frères et mes sœurs, partager la Sainte Cène. Je veux, Seigneur, être un chrétien digne de ce nom, simplement parce que tu en es digne. Je veux pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur mon Dieu, simplement parce que tu en es digne. Je te loue, je te dis merci pour cette grâce, pour ce regard sur ma vie, sur nos vies, cette patience, cette fidélité, cette bienveillance. Quelle grâce, toi qui n'avais besoin de rien, Seigneur, tu nous as tout donné. Alors viens te glorifier dans nos vies et que tout soit fait dans ma vie. Simplement, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.